Je m'appelle Thibaut Rigaudeau, j'ai 29 ans. J'ai fait du foot pendant 20 ans. Et petit à petit, je me suis tourné vers le CC Foot. J'ai fait du triathlon. Donc, je suis jeune diplômé kiné depuis juillet. J'ai une fâcheuse tendance à vouloir contredire toujours les médecins. Des petites choses peuvent être de grandes choses pour d'autres, donc j'ai au début du mal à demander aux gens de l'aide, mais en fait on n'a pas le choix. La Fédé m'a bien fait comprendre que j'avais fait des bons temps et j'ai du mal à me rendre compte de ce que je fais moi-même.
Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Et un énorme merci aussi à Sylvain qui a œuvré dans l'ombre pour effectuer le montage de ce magnifique épisode. Il voulait rester caché, il faut rendre à César ce qui leur appartient. Alors Sylvain, merci, merci, merci. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcasts, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un grand sportif, triathlète. Et oui, moi aussi, en ancien triathlète, j'adore recevoir des triathlètes. Bref, je vais laisser la parole pour qu'il se présente. En tout cas, je suis très heureux parce que nous avons été mis en relation par quelqu'un qui le connaît, qui le suit et qui trouve que c'est un sportif exceptionnel. Alors, je suis vraiment très enchanté de te recevoir.
Déjà enchanté. Pour ma part, donc je m'appelle Thibaut Rigaudeau, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Vendée où je suis en ce moment, et sinon j'habite à Paris où j'ai fait mes études de kiné là pendant 4 ans, je viens de terminer, donc je suis jeune diplômé kiné depuis juillet. Auparavant j'ai fait une licence STAPS, spécialité management du sport sur Angers, donc j'étais déjà pas mal baigné dans le sport. Et en ce qui concerne mon parcours sportif, j'ai fait du foot pendant 20 ans en football valide, et petit à petit je me suis tourné vers le CC Foot, donc football pour déficients visuels, où j'étais en équipe de France de CC Foot.
Okay.
Et depuis 2 ans maintenant, je fais du triathlon dans un club parisien au RMA Paris Triathlon. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aussi je suis déficient visuel, donc j'ai une acuité visuelle d'environ 1/20 à droite et 1/60 à gauche.
Ok.
Voilà.
Bon, c'est une belle présentation. On va pouvoir détailler tout ça. Déjà, peut-être une question un peu indiscrète. Est-ce que tu as toujours été déficient visuel ou c'est une déficience qui a, enfin, ton acuité visuelle a décru au fil des années?
Ouais, c'est en fait j'ai une pathologie qui s'appelle la rétinite pigmentaire.
D'accord.
Donc c'est une pathologie évolutive. Donc en gros, jusqu'à mes 16 ans, j'avais 4/10. Donc à 4/10, moi, je conduisais un scooter. Mm-hmm. Et je savais que j'avais une pathologie dégénérative, et en fait au fur et à mesure des années, on va dire que la vue, ça a commencé à s'atténuer, et du coup j'ai perdu de l'acuité visuelle et du champ visuel depuis que j'ai 8 ans où ma maladie a été découverte. Mais moi, ça a été handicapant à partir de mes 16 ans où je me suis rendu compte que j'avais du mal à conduire le scooter, qu'il fallait accepter pas mal de choses. Mmh. Et il a fallu évoluer avec la pathologie, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans le sport.
Ok, j'imagine que ça ne doit pas être facile, non seulement au niveau personnel, au niveau sportif. Alors au niveau professionnel, à 16 ans, tu n'avais peut-être pas encore de boulot, mais j'imagine que ça t'oblige à te remettre beaucoup en cause, et notamment sur ton avenir professionnel. Est-ce qu'à 16 ans, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que tu t'étais dit que tu avais déjà une voie toute tracée, ou tu étais encore indécis sur la suite de tes études?
J'étais quand même assez indécis. En fait, il faut savoir que j'ai une fâcheuse tendance à vouloir contredire toujours les médecins. On m'a toujours dit que je pouvais pas faire pilote de ligne. Du coup, depuis tout petit, je dis que je vais être pilote de ligne. Donc, c'est un peu paradoxal, mais bon, j'ai trouvé ça drôle. J'ai pas mal d'humour par rapport à mon handicap, on va dire, et je préfère en rigoler et l'accepter, et même si ça n'a pas été facile. Et du coup, j'avais pas d'avenir professionnel tracé.
Okay.
Je voulais travailler dans le sport, mais les médecins me disaient que faire une licence TAP, c'est pouvoir travailler dans le sport, c'était compliqué.
Mmh.
Et alors que moi, voulant faire STAPS absolument, c'est pour ça que je me suis lancé dans STAPS sans savoir trop encore ce que je voulais faire, mais je voulais travailler dans le sport.
Ok.
Donc voilà.
Et alors, les études de STAPS, en étant déficient visuel et en ayant une acuité visuelle qui décroissait au fur et à mesure du temps, comment est-ce que ça se passe ?
Ça a été un peu compliqué au début parce que quand je suis arrivé dans la formation, j'ai dit que j'étais déficient visuel. Et les formateurs connaissaient pas la déficience visuelle ou très peu. Mmh. Et l'adaptation par rapport au handicap visuel a été compliquée à mettre en place. Donc la première année, ça a été une première année, on va dire, d'essai où moi je me suis adapté plutôt que l'école s'est adaptée. Et en fait, à la fin de la première année que j'ai ratée d'ailleurs, on a mis en place des choses pour que le cursus soit adapté, informatisé et que les barèmes sportifs soient adaptés pour que je puisse pas avoir des 2 sur 20 ou des 1 sur 20 et que je puisse m'épanouir dans la formation et pouvoir avoir les mêmes possibilités que les autres, ce qui a été le cas par la suite.
Ouais, parce que STAPS, c'est formation sur le sport où tu pratiques beaucoup d'activités sportives. J'imagine que ça devait pas être facile pour toutes les activités. Alors, tu l'as dit, tu as fait du foot pendant 20 ans. Alors déjà, courir après la balle quand on la voit pas très bien, ça devait pas être facile, mais pratiquer d'autres activités, je sais pas, la natation, le tennis, je sais pas quelles activités tu pouvais avoir dans le cadre de ta formation, ça devait pas être l'idéal non plus.
Ouais, c'était pas l'idéal. En fait, ils ont pas voulu adapter la première année, de ma faute parce que j'ai pas trop voulu m'imposer, et de eux aussi, ils connaissant pas trop la chose. Mmh. Et en fait, l'anecdote, c'est plutôt tennis de table, badminton, escalade. En badminton, je voyais le volant une fois sur 10. Et la première année, je me souviens que j'ai eu 4 sur 20 parce qu'il fallait pas me mettre zéro, quoi. Mais quand tu arrives là-dedans et que tu aimes le sport et que tu veux te dépasser pour faire ça et que au bout du compte, tu as 4 sur 20 parce que tu vois pas, donc il y a une énorme frustration. Mm-hmm. du fait de ça. Mais après, c'était, on va dire, une première année d'essai. Hein. Moi, je sortais de ma vie de lycéen et j'avais aussi envie de m'émanciper et de m'épanouir, pas forcément que dans les études, c'est vrai.
Ouais. Alors, tu vois, pour faire une anecdote, c'est marrant, mais je te le disais en off tout à l'heure, moi, je suis pas déficient visuel, enfin pas autant que toi, mais j'ai eu quelques soucis de santé pendant quelques années. C'est notamment ce qui m'a fait renoncer à mon premier Ironman à cause de mes problèmes de vue, mais à une semaine du départ de la compétition. Et c'est vrai que c'est le genre de handicap que les gens ne voient pas forcément. Quand t'es blessé à une jambe, enfin quand t'as une jambe en moins ou les deux jambes en moins, quand t'as un membre en moins, ça se voit. Et donc les gens comprennent ton handicap. Quand tu parles de déficience visuelle et pas forcément de cécité totale, mais de déficience visuelle, les gens ont du mal à l'intégrer. Et je pense que ça doit pas être facile tous les jours quand c'est au point que toi tu rencontres. Et d'autant plus dans ton métier, quoique peut-être que justement on parle des sens qui se développent quand on commence à perdre la vue. Un métier de kiné justement doit beaucoup aider. Si tu veux, le fait de ne pas voir aussi bien que les autres et donc d'avoir des sens qui sont plus développés, notamment le sens du toucher, le sens du ressenti, doit aider dans ton métier de kiné.
Ouais, c'est sûr que de ce point de vue là j'ai, entre guillemets, de la chance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas meilleur, les malvoyants et les non-voyants, je pense qu'on n'est pas meilleur à la base qu'une personne valide. Mm-hmm. Mais on a tendance à beaucoup plus s'attacher sur le toucher, le ressenti qu'une personne valide. Et du coup, forcément, on va sentir plus facilement des choses et du coup, on va pouvoir se focaliser sur les choses qu'on sent, alors que personne valide va peut-être passer dessus sans forcément trop mm-hmm. s'arrêter, alors que ça peut être important et du coup, on est plus attentif, on va dire.
Ouais.
Du fait qu'on voit pas.
Par contre, pour tout ce qui est études, ça doit être beaucoup plus compliqué parce que pour voir tous les schémas musculaires, tous les schémas osseux, pour analyser tout ça, ça doit être plus compliqué.
Ouais, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais on est dans une école, enfin, donc ma copine est aussi malvoyante et du coup, on est tous les deux dans une, on a tout l'été dans une école spécialisée pour déficients visuels.
OK.
Et le jour de la rentrée, on nous donne un hémisquelette. Donc, comme ça, on a les os entre les mains. Comme ça, en cours d'anatomie, de palpation, on nous décrit l'os et nous, on l'a dans les mains. Donc, on peut tout de suite se rendre compte des choses, choses que dans les écoles valides, souvent, il n'y a pas. Donc, c'est un gros avantage. Et après, oui, les schémas, nous, on est un peu plus en difficulté parce que on a tout sur l'ordinateur, mais il faut zoomer, il faut fatiguer.
Ouais.
Et moi, je prends l'exemple d'un non-voyant dans ma classe qui est impressionnant en termes de connaissances en anatomie. Et il a une représentation mentale des choses qui m'a toujours surpris et m'a toujours étonné du fait qu'il voit rien, quoi. Alors que nous, déjà qu'on est en galère parce qu'on est malvoyant, et lui, il voit rien, il fait tout. Il arrive à représenter le corps en entier avec tous les muscles, tous les os, tous les nerfs, juste à la représentation mentale, sans retour visuel. Donc, c'est assez impressionnant.
Ouais. Bah écoute, on aura l'occasion de parler tout ça, je pense, dans le cours de cet épisode. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, comme je te le disais, parce que pour l'avoir aussi presque un peu vécu, et maintenant, j'ai eu la chance de m'en sortir entre guillemets grâce à une opération et grâce à l'adaptation de lentilles vraiment spéciales. Et je touche du bois pour que ça reste, mais je peux comprendre tout à fait que c'est pas facile. Revenons un petit peu sur toi. Donc tu le disais, t'as 29 ans. T'as fait du foot pendant 20 ans. Donc
Ça.
si je compte bien, vu que ça fait 2 ans que tu fais du triathlon, de 7 à 27, t'as fait du foot. Et puis à partir de 27, t'as découvert le triathlon, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça. En fait, j'ai fait du foot on va dire, de mes 6 ans à mes 25 ans.
Ok.
Donc, de 6 ans à mes 20 ans, je faisais du foot traditionnel, quoi, où
Ok.
j'ai fait d'abord sur les petits terrains, puis ensuite sur les grands terrains. À mes 20 ans, j'ai découvert le cécifoot. En fait, à cette époque-là, je devais avoir un peu plus d'un dixième aux deux yeux. Donc, j'ai découvert le cécifoot à cette époque-là parce que moi, je voulais. J'ai mis du temps à accepter le handicap et j'ai mis du temps à me dire que je pouvais faire du handisport. Donc, j'ai fait du foot à partir de 20 ans, du cécifoot à partir de 20 ans, jusqu'à mes 25 ans où j'ai été en équipe de France de cécifoot. Donc, ça m'a permis déjà de faire. Deux beaux voyages où j'ai pu aller voir les Jeux paralympiques de Londres en 2012 et j'ai participé à des championnats du monde de cécifoot en 2011 en Turquie aussi.
Ouais.
Donc à côté, et voilà, donc j'ai fait du cécifoot et ensuite j'ai fait du coup j'étais en études STAPS en même temps, je faisais du futsal dans un club à Angers avec des valides.
OK.
Et la dernière année de foot, en fait, je me suis fait opérer du ligament croisé en 2014. Et j'ai voulu reprendre le cécifoot fin 2015 et je sentais mon genou très instable. Donc j'avais un peu peur parce qu'on joue sur des petits terrains on joue sur des terrains de hand et les appuis étaient très très violents et du coup j'avais peur que mon genou se dérobe et que je sentais que ça craquait un peu dans tous les sens. Et du coup j'ai arrêté et j'ai fait en parallèle 1 an d'athlétisme handisport.
OK.
J'ai un peu tout fait en athlétisme. Et du coup, après cette année 2015, on va dire que j'ai un peu ralenti le sport. Je me suis mis dans mes études de kiné à partir de début 2016. Et on va dire que de 2016 à fin 2017, je faisais pas grand-chose en termes de sport. Et j'ai commencé à nager début 2018, je dirais une fois par toutes les 3 semaines, recourir un peu 2 fois par semaine. Et en 2018, j'ai décidé de m'inscrire dans un club de triathlon, donc à Paris. Et j'ai trouvé un club. En fait, en parallèle, mon frère préparait le Paris-Dakar en janvier. Et il m'a dit, je vais faire un aquathlon sprint en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Ouais.
Et là, moi, je suis allé avec lui. Je l'ai accompagné. On l'a fait avec nos copines respectives. Moi, je l'ai fait non guidé, donc c'était vraiment. J'ai nagé dans des pieds. Déjà, d'une, je vois rien, donc j'ai essayé de suivre les gens. Donc c'était un peu folklore, mais bon, on y est arrivé. Là-bas, j'ai rencontré quelqu'un de la Fédération de triathlon qui m'a dit qu'il y avait des détections en décembre 2018 avec le paratriathlon pour détecter des nouveaux paratriathlètes. Donc je me suis inscrit en septembre 2018 et j'ai fait les détections en décembre 2018 à Cannes. Donc ça, c'était le début du triathlon pour moi.
Alors, comment ça se passe, les détections? Parce que tu l'as dit, là, tu as fait un aquathlon avec les valides, sans être guidé. Ça devait... Ouais. On comprend bien que tu as galéré. Pour les détections, du coup, comment ça se passe? Est-ce que là, vous avez des guides qui sont mis à votre disposition? Est-ce que tu dois venir avec un guide avec qui tu as déjà eu la chance de t'entraîner? Est-ce que les épreuves sont adaptées? Voilà, j'ai plein de questions là-dessus.
C'est un peu con. En fait, c'est vrai que l'aspect humain, l'aspect aidant est très compliqué à trouver dans le triathlon, surtout pour les déficients visuels comme nous. Et en fait, pour cette détection, déjà, j'ai été bien accueilli au RMA Paris Triathlon, où j'ai pu trouver des gens avec qui courir. On a courir sur piste, moi, je peux y arriver tout seul. Nager en piscine, je peux y arriver tout seul. Mais après, c'est vrai que pour faire du vélo, il faut faire du tandem. Donc, il faut trouver des gens qui veulent bien t'accompagner. Mmh. Et donc, pour cette détection, j'avais rencontré quelqu'un un mois auparavant avec qui on avait fait un duathlon tous les deux. Donc, Christopher Saint-Saulieu, on avait fait un duathlon en banlieue parisienne à Soupe-sur-Loing. Ça s'était très bien passé. Et en fait, pour la détection, on devait envoyer nos références de temps sur un 400 mètres en natation, un 3 km ou un 5 km à pied, je sais plus, et un 20 km ou maintenant un 10 km vélo, mais j'avais aucune référence sur vélo parce que je faisais ni de home trainer, je faisais du tandem une fois de temps en temps quand on pouvait me guider. Et voilà, enfin, on voyait ses temps, mais c'était ouvert à tous les triathlètes, tous les paratriathlètes pouvaient y aller. Pour les amputés, ils pouvaient aller là-bas aussi pour se faire classifier au niveau national voire international. Et donc j'y suis allé, avec Christopher pour faire la détection. Et ça s'est très bien passé parce que j'ai dû faire le meilleur temps en natation et on a fini à deux en course à pied. Et là-bas, il y avait un guide de banlieue parisienne qui fait de la D1 de duathlon et de la D2 de triathlon que j'ai rencontré là-bas, donc Romain Pozzo di Borgo, avec qui on a créé un peu des liens pour pouvoir continuer à moi m'entraîner et que la Fédé m'a bien fait comprendre que j'avais fait des bons temps et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire par la suite pour peut-être performer au niveau national voire international, qui sait. Et voilà comment ça a commencé.
Waouh. Belle histoire. Et alors, du coup, sur la partie natation, alors on le rappelle hein, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément le triathlon, je doute qu'il y en ait, mais on va quand même le rappeler, notamment que j'ai déjà eu Cédric Fleurton à ce micro, j'ai déjà eu Frédéric Bellobre, donc je pense que nos auditeurs savent maintenant ce qu'est le triathlon. Toujours est-il que le triathlon, c'est natation, vélo, course à pied, des distances les plus courtes jusque à l'Ironman, voire même jusque au multi-Ironman. En paratriathlon, est-ce qu'il y a des distances qui sont définies ou ce sont les mêmes que les distances pour les valides, entre guillemets?
Bah après, le paratriathlète peut faire toutes les courses qu'il veut. Bon, tu peux t'inscrire dans un triathlon, n'importe quel triathlon, mais les courses labellisées paratriathlon, c'est sur des distances sprint, donc 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied.
Okay.
Et voilà, ça a été fait pour que, en fonction du handicap, ce soit pas trop long pour certains, que ça puisse pas être blessant pour d'autres en fonction du handicap et que ce soit accessible un peu à tous à la base.
Oui, parce que j'imagine qu'un Ironman, quand t'es amputé, 42 km sur les lames, ça doit quand même pas être l'idéal pour les.
Ouais, non, c'est sûr. Enfin, moi, les membres de l'équipe de France qui sont amputés, on va dire que c'est assez blessant. Ils sont toujours en train de regarder leur moignon pour savoir s'il n'y a pas des plaies ou s'il n'y a pas des choses qui ne sentent pas. Et oui, un Iron, c'est un défi pour un amputé, mais ça peut être aussi un calvaire, quoi.
Ouais. Donc, du coup, tu disais que les courses labellisées paratriathlon, elles se courent sur du sprint. Malgré tout, tu peux t'inscrire dans n'importe quelle autre course pour autant qu'ils acceptent les handisports. Comment ça se passe? Alors, on voit bien le tandem sur le vélo, on voit bien le guide en course à pied. Sur la partie natation, est-ce que tu es guidé ou tu es seul? Et dans ce cas-là, si tu es seul, comment tu fais pour te repérer dans l'eau?
Alors, à l'entraînement, il faut savoir qu'on est souvent seul en piscine. Enfin, moi, je nage seul en piscine parce que j'arrive globalement à voir la ligne qui est au fond de l'eau et je me dirige en touchant un peu les lignes d'eau de temps en temps sur le côté.
Puis j'imagine que tu comptes les mouvements.
Après, pardon?
J'imagine que tu comptes les mouvements.
En dos, surtout, je compte tous les mouvements parce que voilà. Et puis en crawl, oui, je connais à peu près mes coups de bras sur des bassins de 50, bassins de 25.
Ouais.
Donc, ouais, on est un peu tout le temps en train de compter, mais moi, j'aime bien compter, donc ça me dérange pas. J'ai un peu des tocs en termes de comptage, parce qu'on est toujours en train de se repérer, on va dire. Je pense que c'est pour ça. Et donc, par contre, en eau libre, on est tous guidés.
D'accord.
Donc, guidés, on a un lien qui fait 80 cm maximum, extensible, donc élastique. Et après, chaque paratriathlète trouve l'astuce qu'il veut pour se lier avec son guide pour pas que ce soit gênant pour nager, pour que ce soit efficace, pour que le guide ne ralentisse pas l'athlète, etc. Et savoir se placer en fonction des bouées qu'il va y avoir. Enfin, il y a pas mal de codes à mettre en place et d'entraînement à faire à deux en eau libre avant de savoir bien nager sans se rentrer dedans, sans trop s'écarter. Donc, il y a pas mal d'aspects à prendre en compte, quoi.
Ouais. Et est-ce que ton guide peut nager devant ou enfin tu organises ça vraiment comme tu veux. Tu mets ton guide devant, sur le côté, derrière. L'essentiel c'est que vous arriviez à trouver le truc et puis évidemment que le lien ne soit pas rompu.
Alors il y a une règle qui dit qu'il doit pas y avoir plus d'un mètre entre nos deux têtes.
Ok.
Sachant qu'il doit forcément nager à côté de moi. Enfin à côté de moi ou un tout petit peu devant. Mais il faut que on a vite fait de s'écarter un peu et c'est vrai que les têtes peuvent vite être à un mètre d'écart. Mmh. Donc le lien, nous pour l'histoire, le lien il fait moins de 80 cm de long et il doit faire 40 ou 50 pour que quand il s'écarte, moi je m'écarte pas trop et que le lien me rappelle le plus rapidement possible auprès de lui pour éviter de perdre trop de temps quoi.
Ok, ça doit être assez compliqué quand même au niveau synchronisation des mouvements parce que si vous nagez l'un à côté de l'autre à moins de 50 cm, t'as intérêt à avoir la même fréquence de bras ou du moins à trouver vraiment la synchronisation idéale.
Ouais, ça fait un an que moi je suis guidé par Cyril Vienno et c'est vrai que ça, on va dire que ça fait pas très longtemps où on est efficace en eau libre. Parce que on se rend toujours dedans un peu, mais il suffit que moi j'ai une trajectoire et j'arrive à peu près à la tenir. Et en fait, ouais, on est sans le vouloir, on a les mouvements assez synchro. Donc on s'est rendu compte de ça au fur et à mesure. Mais à la base, c'était pas le but premier. Le but premier, c'était de nager le plus vite possible sans trop se taper dedans, sans trop s'écarter, et tout en étant efficace, quoi.
Ouais. Donc sur la partie vélo, bon, on voit bien le tandem. Je partagerai d'ailleurs une photo que tu m'as déjà partagée où on voit ton guide donc qui est à l'avant du tandem et toi qui est derrière. Là aussi, il doit y avoir un aspect technique un peu compliqué parce qu'il faut trouver quelqu'un qui a la même puissance, la même force, la même synchronisation au niveau des jambes que toi.
Alors il faut savoir que pour le tandem, les forces émises sur les pédales elles sont dissociées. Donc okay. En fait. Cyril, par exemple, il peut mettre 400 watts pendant que moi j'en mets 200. Et donc en fait, la seule chose qui nous lie, c'est la cadence de pédalage.
Okay.
Il faut juste qu'on ait la même cadence, mais moi je peux mettre 0 watts pendant que lui il en met 500. Le but c'est d'avoir le meilleur ratio de force sur les pédales pour qu'on aille le plus vite possible, mais c'est complètement dissocié des forces qu'on met. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent quand je sors avec des nouveaux pilotes. Ils me disent, mais non, mais moi, je vais pas y arriver. Tu vas appuyer plus que moi ou moins que moi. Enfin, peu importe. Et ça, ça, on s'en fiche, en fait. Le but, c'est de rouler et tu mets la force que tu veux. Je mets la force que je veux. Et on fait même des fois du 30-30 sur le vélo où lui, il est à fond et moi, je mets 100 watts, quoi.
Bon, c'est pas super sympa pour ton coéquipier, mais bon, pourquoi pas?
Non, c'est vrai. Je suis même déjà amusé à enlever les pieds et il pédale tout seul, mais. Non, voilà. Et après, il y a beaucoup de codes sur le tandem, par exemple. Au début, on se mettait pas en danseuse. Et vu que moi, je le vois pas très bien, donc quand on se met en danseuse, il faut se mettre en danseuse tous les deux, sinon ça déséquilibre complètement le tandem. Donc, il y a des codes où maintenant, il me dit danseuse et je sais qu'il va y avoir un top derrière. Okay. Et il dit top et à ce moment-là on se met tous les deux en danseuse pour être efficace et non plus et pas être en déséquilibre complet voilà. À l'entraînement, il m'indique plus les virages alors qu'au début de la pratique tous les virages il me les indiquait, tous les dos d'âne, toutes les choses. Et en fait au fur et à mesure de l'activité, j'ai appris à ressentir les choses derrière le guide. Mmh. Et il le fait plus, je lui demande pas de le faire non plus, de m'indiquer tous les virages, tous les dodanes. Et c'est devenu un peu une routine où c'est naturel. Et par contre, en course, il me dit 300 mètres virage à droite. Donc là, je sais qu'il va ralentir le pédalage. Donc moi, mmh. je dois moins forcer sur les pédales aussi pour éviter de mettre des à-coups dans ses jambes. Enfin, c'est tout un cheminement un peu huilé, quoi. Enfin, il faut continuer à l'huiler, mais ça commence à être assez naturel avec des relances en danseuse. Enfin, tout est codifié pour qu'on perde le moins de temps possible, en fait.
Ouais. Donc, beaucoup de travail. Déjà, à la base, pour être un triathlète émérite, il faut beaucoup bosser et beaucoup s'entraîner. Mais alors, en plus, ouais. quand ça doit se faire de concert avec un guide, j'imagine que c'est un truc de fou.
Ouais, c'est un truc de fou, mais on va dire j'ai choisi de faire un truc de fou parce que d'une, c'est le triathlon, c'est un sport compliqué. Il faut savoir que les triathlètes s'entraînent beaucoup, beaucoup, beaucoup comparé à d'autres sports, parce qu'il faut s'entraîner dans les trois disciplines. Mmh. Et en plus de ça, il y a l'aspect de la déficience visuelle qui rentre en compte chez nous, les malvoyants. Mmh. Et il y a l'aspect entraînement et course. Mais il y a l'aspect à côté aussi qui est énorme, tout ce qui est logistique, pilote, enfin c'est trouver des pilotes, trouver du monde pour s'entraîner, c'est un calvaire au quotidien pour se déplacer, pour aller aux entraînements. Enfin, c'est pas un calvaire parce que, enfin si c'est un calvaire, des fois t'as envie d'abandonner, mais c'est quand même hyper gratifiant de pouvoir faire ce qu'on fait, que ce soit moi à un niveau assez élevé ou n'importe quel malvoyant ou non voyant qui veut se lancer dans un triathlon. Il faut quand même beaucoup de ressources, que ce soit financières, matérielles, humaines. Donc, chapeau à tous, en tout cas.
Ouais, bah justement, c'est les sujets qu'on va aborder. Ça va être l'essence même de ce podcast, d'aborder toute la partie problématique financière, logistique, matérielle, et puis savoir quels sont les mécanismes que toi, tu as réussi à mettre en place pour surmonter toutes ces difficultés. Bah, commençons déjà peut-être sur l'aspect financier. Donc, tu nous as dit que quand tu avais une vingtaine d'années, tu as été aux sélections, au repérage, tu as été repéré. Là, c'est à ce moment-là que tu as commencé à intégrer l'équipe de France para-olympique et que, de l'équipe de France de para-triathlon et que tu as commencé à t'entraîner, à concourir avec eux. Comment ça se passe en fait, cette intégration dans une équipe?
Bah, en fait, c'est vrai que c'est tout neuf. Hein. Moi, j'ai commencé en 2018. Le triathlon. Ouais. Donc j'ai fait les sélections en décembre 2018 et déjà première chose, j'ai intégré des tests à l'INSEP, des tests physiologiques en vélo et en course à pied en février. Donc là, j'ai rencontré certains membres de l'équipe de France où j'avais un peu des yeux, je me disais mais qu'est-ce que je fais là, parce que j'avais rien fait en fait pour l'instant. Et j'ai été convié à un stage à Cannes en avril 2019. Où là, ça a été un peu le début du triathlon équipe de France pour moi. Et il a fallu tout de suite en fait s'équiper. Mm-hmm. Donc en termes de matériel, j'avais pas de tandem moi. Je se roulais dans une association parisienne qui s'appelle l'ASLA, ou alors on m'a prêté un tandem pour que je puisse faire du tandem de temps en temps. Mais déjà premier investissement quand on commence le triathlon, tout est cher. Que ce soit, faut s'équiper dans les trois disciplines, donc c'est assez cher. Et là, un tandem, j'ai acheté un tandem d'un paracycliste malvoyant aussi. Mmh. Donc ça a été un coût de base assez important, c'est de l'ordre de 3000 euros. Donc pour commencer, quand t'as rien fait, c'est quand même un investissement, sachant qu'on est logé à Paris dans un appartement qui coûte forcément cher parce qu'on est à Paris. Donc il a fallu jongler dans tout ça et moi j'ai voulu m'investir à fond parce que je me dis que c'est maintenant ou jamais de pouvoir créer et faire de belles choses dans le triathlon avant de pouvoir m'investir à fond dans ma vie professionnelle. Et suite à ce stage qui s'est très bien passé, l'aventure équipe de France entre guillemets a commencé. Où j'ai participé à mon premier triathlon à Montélimar avec Bertrand Billard en tant que guide. Donc pour un premier guide, Bertrand Billard qui a été champion du monde longue distance en 2014, je crois. Il m'en voudra pas si je dis une bêtise. Et on a fait une bonne natation, c'était une natation en piscine, bon vélo. Bon, on a eu une petite péripétie où, en termes de guidage, on n'était pas habitués tous les deux. Il a pris un peu trop serré dans le parc où je suis rentré un peu dans la barrière. Mon pied a tapé la barrière sur le côté. Ouais. Donc, j'ai pas pu courir. Enfin, j'ai couru un kilomètre, mais j'avais le pied gonflé et voilà. Donc, Bertrand s'en voulait, mais c'était une très bonne première expérience qu'on avait meilleur temps natation, meilleur temps vélo. Bon, tous les membres de l'équipe de France n'étaient pas là parce que c'était un triathlon à Montélimar. Il y avait une manche de Coupe du Monde en même temps. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu aussi me montrer un peu, de savoir ce que j'étais capable de faire. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu une manche de Coupe du Monde à Besançon que j'ai fait avec Romain Poggio di Borgo. Donc, manche de Coupe du Monde où moi, j'étais pas sur la start list, parce qu'il faut savoir que sur les start list, au niveau international en paratriathlon, on va dire qu'il y a que au maximum 12 places par 12 places par catégorie.
Okay.
Donc 12 tandems et donc moi vu que j'avais fait aucune compétition internationale, c'est difficile de rentrer sur des courses. Mm-hmm. Donc l'organisateur de Besançon a bien voulu que je fasse la course en open. Donc je partais après tout le monde et on avait nos temps pour se comparer un peu aux autres. Donc si on s'était dit que par rapport à nos temps, si on avait été dans la course, on finissait sur le podium.
Ah ouais.
Donc troisième. Donc pour une première manche de Coupe du Monde, moi je trouvais ça fou. Et c'est là que ça a commencé. Où après, 3 semaines après, on nous a proposé avec Cyril Viennot. Donc Cyril Viennot qui avait fait sa première course à Besançon en même temps que moi avec un autre paratriathlète français. Et on lui a proposé de faire guide pour moi pour une première manche de Coupe du Monde au Canada. Mmh. Et au Canada, et on, donc il est venu 3 jours à Paris avant de partir au Canada. Donc on se connaissait pas, hein. On a fait donc il a fait formation accélérée de tandem. On a roulé dans Paris. Donc pour une première, on est allé à l'hippodrome de Longchamp rouler. Ça a été un peu laborieux pour tous les deux.
Ouais.
Et on est parti au Canada et première manche de Coupe du Monde, on fait 3 au Canada, donc à 6 secondes du deuxième. Donc pour nous c'était, enfin pour moi déjà j'étais un peu sceptique avant de partir. Je me disais mais qu'est-ce que je fais là, j'ai encore rien fait. On me dit d'aller faire une Coupe du Monde au Canada et ça s'est très bien passé. Donc on est revenu et avec une 3e place. Donc là, c'est là où le projet équipe de France a vraiment commencé, parce que on a prouvé que on était capable de faire de belles places. Et c'est aussi là qu'a commencé ma recherche de financement.
Ah.
Parce qu'il faut savoir que aller au Canada, ça coûte cher, surtout pour une première course. Et la Fédération de triathlon nous aide beaucoup sur les stages et finance tout ce qui est course labellisée championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux paralympiques.
Okay.
Pour le reste des courses, les financements, c'est toi qui dois te débrouiller pour trouver de l'aide pour pouvoir participer à ces courses. Mmh. Et voilà, et engranger des points pour se qualifier pour les Jeux paralympiques ou les championnats du monde. Et donc là, je sais plus. En gros, il faut savoir que le guide est censé rien payer. Donc l'athlète mmh. prend en charge le guide.
Okay.
Donc pour une première compétition, je disais que j'avais acheté le tandem 3000 euros. Pour une première compétition, je crois que ça a coûté 2500 euros pour deux.
Ouais.
Donc là, il a fallu rapidement trouver des fonds si je voulais continuer.
Mmh.
Donc j'ai tapé avec ma copine un budget prévisionnel sur une saison de triathlon. Et ça peut vite chiffrer assez haut. Et mon école m'a orienté vers la Fondation Valentin Haoui, qui est mon école, c'est l'association, enfin fait partie de l'association Valentin Haoui, l'école de kiné.
Okay.
Et donc j'ai été orienté vers la Fondation Valentin Haoui qui en parlant avec eux a tout de suite été accroché par mon projet et a tout de suite dit oui de manière enchantée à m'aider financièement pour pouvoir continuer de performer et de me donner les moyens que je puisse pas être en galère sur pas mal de choses.
Mm-hmm.
Que ce soit la logistique, le matériel, Et voilà, donc ça a été un premier déclencheur qui m'a dit, ça y est, je peux faire du triathlon en me posant beaucoup moins de questions sur le financement de ma saison, même si c'était une très grosse partie qui m'ont pris en charge. Et il faut savoir que le reste était à charge. Et une autre association qui s'appelle l'association La Maison des Aveugles, qui est basée sur Nantes, enfin Saint-Sébastien-sur-Loire exactement, qui aide au financement de chiens guides d'aveugles, de projets de malvoyants ou de non-voyants sur des projets sportifs. Donc, qui est le président, qui est un ami à moi, donc il m'a tout de suite ouvert les bras en me disant, bah oui, nous aussi on peut t'aider, surtout si tu, enfin, on te connaît parce que j'ai joué au foot avec lui au CC Foot dans la même équipe. Donc, on sait que moi j'ai toujours l'envie d'aller plus haut, de me dépasser. Et ils m'ont dit, bah oui, y a pas de problème, on va t'aider. Et si tu vas aux Jeux paralympiques, nous, on sera très heureux pour toi et puis pour nous, quoi. Mmh. Donc j'ai cette fondation Valentin Oui et l'association La Maison des Aveugles ont été un coup de pouce pour moi qui, enfin, je les remercierai jamais assez d'avoir pu me permettre de faire ça. Donc ouais. Voilà, ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, la Fédération française de triathlon aide un peu, enfin aide beaucoup pour les stages. C'est aide beaucoup ou ils prennent juste tout en charge? Qu'est-ce qui reste à ta charge en fait sur les stages d'entraînement et puis après sur la partie entraînement régulière au quotidien? Qu'est-ce que tu estimes comme budget? Alors, on parle pas encore des compétitions, mais qu'est-ce que tu estimes comme budget toi avoir besoin pour entretenir ton tandem, trouver des pilotes, les faire venir éventuellement jusqu'à toi pour s'entraîner, tout ce genre de choses.
La Fédé, ouais, sur les stages, la Fédé prend tout en charge. Okay. Donc déjà, ça fait un coup en moins, on n'a rien besoin de s'occuper. C'est juste du déplacement qui est une sacrée galère, je raconterai ça. Et après, pour les stages, et aussi on a des aides personnalisées du fait d'être sportif de haut niveau.
Okay.
Donc, je crois que c'est 2 000 € d'aide personnalisée annuelle. Donc ouais. Ça, c'est quand même un sacré coup de pouce. Et après, pour tout ce qui est au quotidien, moi, j'ai budgétisé une saison avec les compétitions de environ 40 000 € avec le guide, tout compris, et les stages perso organisés à côté, où par exemple Bertrand Billard est mon entraîneur et aussi un de mes guides, donc on essaye de se retrouver une à deux fois dans l'année pour faire une à deux semaines de stage ensemble, pareil avec Cyril, donc après Cyril par exemple m'a accueilli chez lui, donc là j'ai rien eu besoin de financer à part le déplacement. Donc en gros il faut compter, on va dire, 1 000 € par semaine de stage hors fédération pour deux. Donc ça commence à faire. Donc ouais, voilà. Après, pour tout ce qui est entretien du tandem, matériel, combinaison, parce qu'une bonne combinaison ça coûte cher. Ça chiffre vite. La fondation Valentin Oui a monté un projet pour m'aider à financer un nouveau tandem. Mmh. Donc là, on a sauté sur l'occasion il y a maintenant 8 mois. Et donc il faut savoir que ils ont réussi à récolter une bonne partie des fonds, sachant que le tandem c'était tout compris avec les deux paires de roues, c'est 16 000 €. Donc ouais. Donc c'est pas une petite somme, et la fondation a récolté des dons auprès de personnes pour pouvoir m'aider à financer une partie du tandem. Les deux tiers du tandem. Donc moi j'ai, enfin pour l'instant j'ai pas à me plaindre, même si je roule pas sur l'or du tout, et puis j'ai encore pas de référence au niveau international, de vraies références sur les compétitions internationales, parce que cette année déjà on n'a pas pu courir avec le Covid. Donc, en espérant que ce soit le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'exprimer, parce que depuis un an, on va dire que j'ai fait pas mal de progrès dans les trois disciplines, et le fait d'avoir du nouveau matériel, d'avoir mis en place des choses avec Cyril, mon guide, la fédération et de mon côté, on laisse de moins en moins de place aux choses un peu, enfin, du matériel un peu obsolète ou des choses comme ça. Donc, on se donne les moyens de performer le plus possible. Bon, malgré que c'est un coup, mais il faut toujours se donner les moyens. Et après, c'est vrai que on est toujours en recherche permanente de soutien, d'aide financière, etc. Pour pouvoir continuer le triathlon dans de bonnes conditions, quoi.
Ouais, c'est sûr que tu le dis, tu as beaucoup progressé dans les trois sports ces 12-18 derniers mois. En ayant fait une première expérience où tu montes sur le podium, je pense que là, il n'y a pas photo. Là, tu vas tout exploser une fois que tu vas prendre le départ d'une grande course internationale.
Ouais, j'espère tout exploser. Après, moi, j'ai toujours eu peu confiance en moi sur le fait de pouvoir faire de belles choses. Et depuis que je suis avec Cyril, qui est un peu un motivateur, pédagogue, booster dans la pratique, il me fait me rendre compte que ouais, je suis capable. Là, on a fait des tests en stage. On était en stage il y a 10-15 jours à Vichy, où on a fait des tests dans les trois disciplines et ça s'est plutôt très 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 bien passé. Donc au-delà de nos espérances à tous les deux, donc on se dit que c'est dommage qu'il n'y ait pas de course, qu'on ne puisse pas montrer ce qu'on est capable de faire, même si je ne sais pas comment ça se passera, mais on a quand même énormément progressé. Donc là, on se retrouve samedi avec sa famille et ma copine pour s'entraîner une semaine ensemble. On part en camping une semaine ensemble pour s'entraîner parce que on fait un triathlon à la Ferté-Bernard le 23 août.
Ouais.
Donc voilà, et j'ai aussi enrôlé ma copine qui est malvoyante à faire un triathlon guidé par la femme de Cyril. Donc c'est aussi un projet assez cool de pouvoir faire des choses ensemble et de pouvoir partager nos passions du sport tous les deux, malgré, je dis encore, les difficultés. Là, c'est les difficultés de logistique, de transport de tandem. On est toujours en train de se creuser la tête comment on va faire pour se déplacer, parce que nous, on voit un peu. Donc, on peut marcher avec le tandem, mais c'est jamais simple. Donc, on se donne les moyens et on galère, on en chie un peu. Mais au final, c'est pour se permettre de faire des choses assez, assez sympas.
Alors, sur la partie justement logistique, bon, tu l'as dit, le plus compliqué, c'est la partie tandem, parce que bah, te déplacer, toi ou ton staff, ta copine, c'est encore assez facile, mais tout ce qui est matériel et notamment le tandem, comment est-ce que tu arrives à relever le défi?
On fait comme on peut, hein. Enfin, on relève le défi. Il faut souvent faire appel à des ressources extérieures, que ce soit les gens de mon club qui m'ont déjà aidé pour amener le tandem de chez moi à une gare, de la gare à chez moi. Après, il faut savoir que, par exemple, pour transporter le tandem dans le métro, c'est pas possible. Dans le bus, c'est un peu galère. Donc souvent, pour aller d'une gare de Paris, vu qu'on est à Paris, d'une gare de chez nous à une gare, il faut que je prenne un taxi qui n'est pas un petit taxi, parce qu'il faut prendre un van pour pouvoir mettre le tandem dedans, donc forcément c'est plus cher. Après, donc le tandem est calé dans une housse spéciale tandem, comme une housse de transport vélo mais plus grande. Mmh. Et il faut savoir que dans le train, c'est normalement pas accepté par les contrôleurs. Donc moi, je trouve que c'est un peu scandaleux du fait qu'on accepte les vélos en housse et pas les tandems, alors que moi j'ai entre guillemets l'obligation d'avoir un tandem pour pouvoir faire du vélo.
Ouais.
Donc quand on leur explique ça, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Bon, pour l'instant j'ai encore et jamais de problème, mais c'est toujours passé, mais ça pourrait ne pas passer. Quand on prend l'avion, il faut aller prendre un car, mettre le tandem dans la soute du car pour aller prendre l'avion. Des fois, je suis tout seul. Rarement, enfin souvent, ma copine m'accompagne pour m'aider à transporter au moins jusqu'à la gare, jusqu'à l'aéroport, pour que ensuite je puisse prendre l'avion un peu sereinement. Je suis toujours en train de demander à des gens pour me déplacer, pour me diriger, pour dire. Donc c'est en permanence de l'énergie et de la dépense physique, enfin psychique, je dirais. On est toujours en train de se fatiguer à essayer de voir, à essayer de se déplacer facilement. Enfin. Il y a pas mal de galères et pas mal de logistique à prendre en compte. Donc c'est pas simple, mais bon, il faut que, enfin, je dis toujours quand on veut, on peut. Donc c'est parfois galère, mais pour l'instant j'y suis à peu près toujours arrivé. Dans quelles circonstances, pas toujours les meilleures, mais on y arrive toujours. Et Cyril Viennot est assez aidant sur ça. Donc par exemple là, il a gardé le nouveau tandem chez lui pour qu'il puisse l'emmener là où on va et que ce soit lui qui le gère. Après il y a tout l'aspect mécanique aussi qui est un peu compliqué. Moi la mécanique de base je peux faire tout en voyant pas, au toucher, etc. Mais tout ce qui est un peu plus fin, tout seul je peux pas faire. Donc il faut trouver des vélocistes qui veulent bien accepter de faire un tandem, parce qu'à Paris il y a pas beaucoup de place dans les magasins, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé un vélociste CRC Cycle, donc ici les Moulineaux, qui est pas très loin de chez moi, mais tout seul je peux pas y aller. Donc il faut que j'appelle quelqu'un qui vienne en tandem, qui vienne récupérer le tandem à un local dans Paris, pour ensuite qu'on l'emmène au local, au magasin de vélo, qu'on attende tous les deux, donc lui il perd aussi de son temps, et qu'on reparte ensemble au local pour que je puisse redéposer le vélo. Donc j'ai au début du mal à demander aux gens de l'aide, mais en fait on n'a pas le choix, donc il faut, et souvent c'est plutôt avec grand plaisir qu'ils le font, et ils savent que c'est pour que je puisse ensuite faire de belles choses et de pouvoir m'entraîner dans de meilleures conditions. Donc je les en remercie tous du fait de m'aider comme ça, parce que sans eux, enfin sans tout le monde, je pourrais rien faire, quoi.
C'est un petit peu la base des sportifs de haut niveau qui au final sont obligés de demander de l'aide un peu partout pour financer leur carrière, mais encore plus pour les athlètes paralympiques, enfin les athlètes en e-sport. Alors justement, vu qu'on parle d'aide et qu'on parle de financement, tu nous l'as dit, il y a ces deux associations, enfin cette fondation et cette association qui viennent en aide aux aveugles et aux malvoyants qui t'aident. Est-ce que tu as d'autres sponsors? Est-ce que tu es en recherche perpétuelle de sponsors? Parce que tu es jeune diplômé en kiné, est-ce que tu commences déjà à exercer et est-ce que ça te permet de financer un petit peu ta carrière sportive, ou là tu es vraiment en mode sportif professionnel, tu te donnes à fond dans ton sport, tu mets toutes tes ressources là-dedans et puis tu prendras un boulot quand on aura l'occasion à la fin de ta carrière?
Ça c'est la question qui s'est posée. En fait je devais faire ma dernière année sur 2 ans et pour pouvoir me consacrer aux Jeux Paralympiques de Tokyo si ça avait lieu, pouvoir me donner les moyens d'y arriver. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc, nous, on était aux États-Unis avec mon guide pour participer à une course, 2 courses même, qui ont été annulées. C'était le 14 et le 22 mars. Donc, il y en a une qui a été annulée le 12 et une le 13. Donc, on était là-bas. Donc, on a quand même profité du fait qu'on soit aux États-Unis pour continuer à s'entraîner. Donc, on a pris notre retour le 21 mars au lieu du 24. Donc, on a été obligé de rentrer plus tôt parce qu'il n'y avait plus de vol ensuite. Et donc est arrivé le Covid et le confinement. Et pour moi, on va dire que professionnellement, ça a été un peu accélérateur de la fin de ma formation. J'ai écrit mon mémoire et j'ai pu rendre mon mémoire et j'ai été diplômé cette année, alors que c'était pas l'objectif de base. Okay. Donc ça me permet de aussi maintenant pouvoir organiser mon temps et gérer les entraînements et la vie professionnelle en parallèle, jusqu'au jeu de Tokyo, voire de Paris en 2024. Et en fait, le but pour moi, ça va être de travailler quand même un minimum, parce que jeune diplômé, j'ai pas envie d'arriver, si je fais 4 ans de triathlon ou 5 ans de triathlon à fond et que je fais plus du tout de kiné, je vais arriver après et je saurais plus comment on fait. Donc, je vais travailler, je pense, à partir de septembre ou octobre, dans un cabinet libéral, où je ferai entre 10 et 20 heures de travail dans la semaine pour pouvoir me dégager du temps pour essayer de m'entraîner l'hiver 15-20 heures dans la semaine pour essayer de continuer de progresser. Donc okay. Ça c'est l'objectif, et à côté de ça, bah oui, on est toujours en recherche de partenaires, de financement, mais aussi de matériel. Moi, je sais que de par mon frère qui travaille dans le milieu du motocross, il y a un peu des équipementiers qui sont proches de la moto. Donc, J'ai des équipementiers qui me, j'ai Gaerne qui me donne des, du matériel, Vetiver Sport qui me, c'est une marque d'équipement de running basée à La Réunion qui me suit. Et puis après, via Cyril Viennot, donc ses partenaires, il a réussi aussi à m'aider dans l'équipement et voilà, donc tout ce qui est équipement. Maintenant, je commence à être pas mal équipé, même s'il faut toujours trouver des équipements. Et pour ce qui est du financement global, oui, j'ai créé un book avec un ami photographe, donc qui m'a pour démarcher des partenaires. Mais c'est ça prend énormément de temps. Et avec la période actuelle, la crise sanitaire, etc., on a beaucoup moins de retours positifs qu'on pouvait avoir avant. Depuis 2019, il y a aussi un laboratoire parisien qui me suit, qui s'appelle ACM Sport. Et grâce à un membre du club de triathlon qui a pu m'aider dans ce partenaire-là, qui le connaissait. Donc ça, c'est compliqué, mais il faut, je suis toujours à la recherche de partenaires pour. En fait, le but, c'est pas forcément entre guillemets, de se payer, mais c'est de pouvoir faire une saison où ça nous coûte rien, quoi.
Oui.
Donc, il faut savoir qu'à côté de ça, le fait que je sois déficient visuel, j'ai une allocation qui peut m'être versée en fonction de mon salaire. Donc, plus mon salaire est haut, moins l'allocation est grosse, etc. Et donc ça c'est aussi un coup de pouce entre guillemets par rapport au handicap. Ça, c'est quand même un coup de pouce, un coup de pouce, malgré qu'on ait un loyer parisien qui soit très cher. Et voilà.
Disons que ça te permet de mettre le beurre dans les pâtes, mais il faut quand même acheter les pâtes tous les
Ouais,
jours.
tout à fait. On n'est pas trop pâtes, mais ouais.
Bon, c'était pour la métaphore, pour l'image. Écoute, c'est super intéressant tout ce que tu nous racontes. Alors, on sent bien qu'il y a beaucoup de difficultés à surmonter, non seulement d'un point de vue physique, d'un point de vue logistique, évidemment d'un point de vue financier, que malgré tout, tu arrives à surmonter tout ça avec l'aide de beaucoup de gens, avec l'aide de ta copine, avec l'aide de toutes ces personnes à qui tu as osé maintenant faire la démarche de demander de l'aide. Et
Ouais.
franchement, c'est tout à ton honneur. Je crois que la seule chose qu'on peut te souhaiter, c'est de réussir et de performer. Si j'ai bien compris, donc là, vous vous prépariez pour Tokyo 2020, qui pour l'instant est reporté à 2021, ce qui veut dire
Voilà.
que enfin, tu te préparais pour une qualification à Tokyo aux Jeux paralympiques, où vous êtes déjà sélectionné et vous avez déjà votre billet pour les prochains Jeux olympiques, enfin les prochains Jeux paralympiques.
Ouais. On se préparait, on va dire, parce que pour l'instant, en fait, il y a un ranking, un classement paralympique qui est sur l'année. Normalement, c'était juin 2019 à juin 2020,
OK.
où les trois meilleures courses étaient prises en compte, les courses qui marquaient le plus de points. Donc, on avait un classement paralympique et c'était les neuf meilleurs qui avaient un quota, couvraient un quota pour leur pays pour avoir un billet pour Tokyo.
OK.
Et aujourd'hui, nous, on est 12e au ranking paralympique. Et les deux autres Français doivent être cinquième et sixième ou quatrième et cinquième, enfin, je ne sais plus exactement. Et en fait, les deux autres Français vont sûrement ouvrir des quotas. Enfin, on verra bien en fonction des autres courses qui vont venir pour Tokyo. Mais après, le quota n'attribue pas le ticket pour Tokyo. Donc, nous, on sait que pour l'instant, vu qu'on n'a pas fait beaucoup de courses et que pour l'instant, on est derrière en termes de courses. Mais on va voir ce qui va se passer sur les prochaines courses et les tests aussi qu'on a fait à Vichy, vu qu'il va pas y avoir beaucoup de courses, vont sûrement être pris en compte pour la sélection à Tokyo. Donc on continue de s'entraîner et on espère qu'il va y avoir des courses pour pouvoir essayer de d'être devant tout le monde. Donc là est la question. Les quotas vont être ouverts sûrement par la France pour deux quotas. Et après, la Fédé peut décider d'emmener un binôme, deux binômes ou pas de binôme. Ça, c'est fonction de la fédération qui mise aussi sur des potentiels médaillables. Donc,
OK.
on verra les courses qui vont marquer des points pour le ranking paralympique réouvrent normalement en janvier 2021 jusqu'à juin 2021.
Okay.
Donc, pour l'instant, les courses qui arrivent, c'est des courses pour s'entraîner, marquer le coup et montrer qu'on est là. Et ensuite, les courses qui vont marquer des points pour le ranking paralympique vont commencer à partir de janvier 2021. S'il y a des courses, bien sûr.
S'il y a des courses, ouais. Si on se retape pas une deuxième vague de crise sanitaire. Voilà. Ouais, donc vous vous tenez prêt éventuellement à accepter une invitation de la Fédération française à ce que votre binôme participe aux prochains Jeux paralympiques.
Ouais, tout à fait, c'est ça.
Vous êtes actuellement combien de couples ou de binômes dans la Fédération française de paratriathlon?
En équipe de France, on est 3.
Ok.
Et après, sur les compétitions nationales, je dirais qu'au maximum, il doit y avoir 8 binômes garçons et 3-4 binômes femmes.
Ok.
Donc, ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'est encore trop peu. Mais c'est ce que je disais par rapport à tout ce qui est logistique, tout ce qui est mise en place de choses pour pouvoir aller participer à une course, c'est assez important. Donc, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne donne pas les moyens de le faire parce que c'est assez gros quand même. Mmh. Mais par exemple, à Paris, nous, certains malvoyants ont créé un groupe qui s'appelle A2, c'est mieux, donc qui est aussi sur Facebook, qui peut être intéressant. Mmh. Et pour essayer de mutualiser nos ressources respectives entre malvoyants et potentiels pilotes pour pouvoir mettre en relation les malvoyants et les valides pour que les malvoyants puissent aller s'entraîner en course à pied, en vélo, en natation et rendre accessible à tous la pratique du triathlon. Parce qu'on sait que c'est pas que on fait l'entraînement et on s'en va. Là, il faut prendre en charge une personne, être là pour la personne. Donc il y a ce groupe-là sur Facebook, surtout en région parisienne, qui fait ça, et aussi Label Père qui est sur Facebook, qui essaye de mutualiser aussi ça. Par exemple, quand je viens en Vendée, m'est arrivé d'envoyer un message sur le groupe pour pouvoir rouler avec quelqu'un, et j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec certaines personnes grâce à des groupes comme ça. Donc c'est hyper sympa et hyper, prometteur pour la suite, pour que les personnes en situation de handicap puissent plus facilement faire du sport, surtout les déficients visuels où nous on est entre guillemets peu autonome par rapport à une personne amputée ou même en fauteuil pour se déplacer. Souvent ils sont en voiture et ils ont beaucoup plus de facilité à se déplacer, mais voilà, il y a des difficultés pour tous de toute façon.
Ouais. Oui, c'est vrai que quelqu'un qui est amputé ou quelqu'un qui est en fauteuil peut toujours éventuellement conduire, même si c'est compliqué, même si ça demande de la logistique, même si ça demande un véhicule adapté, etc. Quelqu'un à qui manque un bras, c'est pareil, il va quand même pouvoir conduire avec un véhicule adapté. Un déficient visuel, ça paraît un petit peu plus compliqué quand même.
Ouais, ça peut se faire, mais c'est un peu dangereux. Ouais.
Ouais. Bah, on attend avec impatience que Tesla lance les véhicules autonomes.
Ouais,
quoi.
C'est vrai, on attend ça.
Écoute, je te remercie vraiment pour toutes ces informations, pour tout ce partage, pour tout ce que tu nous as donné, offert, toutes les réflexions que tu nous as ouvertes. Pour finir les épisodes, j'ai la tradition de poser deux ou trois questions à mes invités. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu?
Ouais, pas de problème.
Alors tu peux répondre tac au tac en quelques secondes, ou alors on peut s'étendre sur le sujet. Moi j'ai du temps, donc ça va.
Ouais, pas de problème.
La première question, et celle-ci, elle me tient vraiment à cœur. Si tu pouvais, alors d'habitude, je demande à mes invités s'ils pouvaient se transformer en un petit eux-mêmes et se parler quand ils étaient petits, pour savoir comment, enfin, pour se donner le meilleur conseil. Toi, t'as découvert le triathlon un peu tard. J'aimerais plutôt revenir sur cette étape un petit peu avant tes 16 ans, vers 13-14 ans, quand là, ça commence vraiment à devenir important, ta déficience visuelle, voire même à 16 ans. Si tu pouvais te transformer en un petit Thibaut et te parler à l'oreille et te donner quelques conseils, qu'est-ce que tu te dirais?
Je pense que je donnerais un conseil que ma maman m'a toujours donné depuis que je suis petit et qu'avec le handicap visuel, c'est un peu compliqué de l'accepter. C'est aie confiance en toi et tu verras, ça tu vas y arriver, et tu vas donner les moyens et tu vas y arriver. Donc je dirais que c'est aie confiance en toi.
C'est d'ailleurs la signature de mes mails, mais en latin. J'aime beaucoup. Si tu pouvais réécrire le livre, l'histoire de ta vie jusqu'à présent, alors même si t'es jeune, hein, qu'est-ce que tu changerais? Comment est-ce que tu réécrirais certains chapitres, certains passages?
Comment je réécrirais certains passages? Bah, c'est un peu lié à la confiance en soi. Je dirais que c'est dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer du fait de. Je pense que du fait du handicap visuel, j'ai toujours du mal à m'affirmer dans mes choix, dans mon parcours, dans mes prises de décision. Et c'est du coup le fait d'avoir confiance en soi, c'est de dire par exemple au médecin, oui, je vais faire STAPS, mais vous n'avez pas besoin de m'en empêcher, je vais le faire. J'ai eu toujours du mal à entreprendre les choses et je dirais que vas-y, fonce, fais ce que tu veux faire et si tu donnes les moyens, tu y arriveras. Donc c'est continue à persévérer et tu vas y arriver encore plus facilement.
Ouais, donc pas grand chose à réécrire si ce n'est insister sur la confiance
voilà.
En soi.
C'est ça.
Ok. Et pour finir, ce serait un peu le passage de témoin. Si tu devais nous recommander un sportif, une sportive, valide ou handisport, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner?
Ouais, j'ai quelques noms. Pour rester dans le handisport, je dirais que Théo Curin pourrait être, je ne sais pas si tu connais.
Non.
C'est un nageur amputé des quatre membres qui œuvre beaucoup pour le handisport et qui véhicule une image du handisport et du dépassement de soi qui est assez impressionnant. Donc je dirais ouais Théo Curin qui en plus est un bel orateur et il a de belles valeurs pour son âge, que c'est, il est assez jeune, je crois qu'il a 19 ans. Donc ouais, je dirais Théo Curin.
OK. Bah écoute, je note, je relève le défi et puis j'espère l'avoir à ce micro un de ces quatre.
Ça marche.
Écoute, Thibaut, merci beaucoup encore une fois pour tout ça. Je te souhaite bon courage pour la suite, bon courage pour les prochains Jeux paralympiques, s'ils arrivent à se tenir en 2021. Sinon, bah, j'ai quand même bon espoir que, Covid ou pas, on arrive à te croiser sur les champs à l'arrivée du triathlon paralympique en 2024 à Paris.
Allez, on va rester là-dessus alors.
Super. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation.
Merci.
Et je te dis à très bientôt.
Bon courage à toi.
Merci. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!